I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de The Council, de Focus et de Big Bad Wolf, studio bordelais. On parlera de Where the Water Tastes Like Wine. On va pas le prononcer beaucoup trop. On va dire Water ou Where the Water, quelque chose dans le genre. Et on finira par Chuchel de Amanita Design et Moss sur PSVR. Programme chargé, où on aura des choses à dire, ça va être formidable. Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin de Croissants. Voilà, ce formidable, cette matinale personnalisable, salut, les croissants. Bonjour Corentin.
Bonjour Erwan.
On va commencer avec toi, Corentin, avec du Nintendo.
C'est un peu le problème avec Silence on joue, c'est que le Nintendo Direct a eu lieu entre l'enregistrement et la diffusion de l'épisode, donc ça arrive. Mais un Nintendo Direct assez fourni cette fois-ci. C'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à autant de densité, surtout à cette période de l'année où on se dit c'est un Nintendo Direct, ça a du rappel. Non, plutôt bien, plutôt fourni. Alors moi j'ai noté quelques jeux, donc c'est un peu mes goûts et mes envies. Alors ils ont ouvert avec le WarioWare Gold, qui est une espèce de best-of des WarioWare. Alors moi j'adore WarioWare, c'est vraiment une de mes séries favorites de Nintendo. Donc là ça va être une espèce de méga best-of avec 300 mini-jeux. Qui va un petit peu rappeler tous les WarioWare sortis sur différentes consoles, donc GBA, DS, Wii et tout ça.
On va retrouver du coup des segments qu'on avait sur les
absolument
jeux.
Absolument, on va retrouver des micro-jeux.
C'est bien.
Alors sur 3DS, la 3DS bouge encore. Pas mal de jeux annoncés sur 3DS encore, ils veulent encore un petit peu faire vivre ce segment-là, ce qui est pas bête vu que le parc installé est encore suffisant. C'est une plateforme qui est prisée des enfants notamment. On préfère donner, on a pu en discuter avec Erwan, on préfère leur donner une 3DS plutôt que leur filer une Switch tout de suite quand ils
ne filent pas une Switch. C'est pas possible.
Ils risquent de la faire tomber. Ouais. Donc content pour Warrior Gold. On a vu des premières images de gameplay de No More Heroes, Travis Strikes Again, No More Heroes, donc le troisième volet de la série de Suda 51, qui est.
Série
que moi j'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup cet univers complètement foutraque qui va dans l'espèce de d'Amérique désœuvrée américaine, mais complètement foutraque. Moi j'adore. Le jeu a l'air de se présenter un peu plus comme un beat'em up vu du dessus, un peu à la Fury presque. Vous savez le jeu d'Emeric Toa qui est sorti l'année dernière. Et je suis un peu mitigé. On va voir. Je suis pas.
Attendons de voir.
J'attends de voir. Pourtant le gameplay à la troisième personne avec beaucoup de boss, c'était plutôt bien affiné. J'aurais préféré qu'il reste sur quelque chose de classique, mais on va voir. Peut-être que je serai agréablement surpris. Il y a eu un gros segment qui a été attribué à Mario Tennis Aces. De toute façon, c'était annoncé comme étant un gros segment pour ce Nintendo Direct-là. Et on a vu pas mal de choses, beaucoup de modes de jeu, un mode histoire. Il est développé par Camelot, qui avait développé notamment des Mario Golf. Je suis plus sûr pour les autres Mario Tennis, mais en tout cas,
qui scénarisait vachement les jeux, etc., avec des campagnes.
Exactement. C'est bon signe parce que on va pas se mentir, le Mario Tennis sorti sur Wii U, c'était juste un placeholder, c'était un peu nul, il y avait peu de modes de jeu, il manquait complètement de contenu. Tu sentais que faut vite sortir des jeux parce que c'est un peu nul la Wii U.
Il faut vraiment remplir ce vide qu'avait laissé. Il y a plus de jeux de tennis quasiment.
Ouais.
Il y en a beaucoup.
Il y en a un qui va sortir chez Big Ben bientôt avec pas mal de licences. On va voir ce que ça va
donner. J'ai vu qu'il y a un jeu sur PC qui cartonne en tennis, qui est annoncé un peu en jeu indé tennis. Ça a l'air assez étonnant.
D'accord.
J'ai pas plus de détails, mais. Mais je me suis posé la question parce que ça, le dernier doit dater de 2011, c'est le Top Spin 4.
Il y a eu l'âge d'or.
Là, on n'est plus du tout dans l'âge d'or, ça c'est clair. En tout cas, il sort cet été, plutôt en vie, hein, faut dire les choses. Il y a eu pas mal d'adaptations aussi qui ont été annoncées, dont certaines assez étonnantes. Okami HD, ça fait plaisir. Il était ressorti récemment sur PC, PS4, Xbox One, je suis pas sûr, mais il était ressorti sur une nouvelle génération, entre guillemets, dans une réédition, ce genre de jeu-là. Moi, je leur donne autant de chances qu'il faut pour qu'ils finissent par fonctionner. C'est un excellent jeu. C'est
15 ans après, 20 ans après.
Si vous aimez Zelda, ancienne recette, c'est un excellent Zelda, ancienne recette. Crash Bandicoot, Insane Trilogy, donc qui est des vrais remakes des premiers Crash Bandicoot qui étaient sortis sur PlayStation à l'époque et qui ont plutôt été bien reçus par la communauté des fans malgré la difficulté. Là, il ressort sur console Nintendo. Quelle époque on vit quand même. Et Undertale.
Rappelons quand même que Crash était pressenti pour être la mascotte de Sony à une époque.
Et Undertale, alors celle-là, on l'a peut-être pas trop vu venir, mais en réalité, c'est une news un peu plus grosse, puisqu'en fait, c'est Game Maker Studio 2 qui apporte une compatibilité pour exporter ses jeux sur Switch. Donc, techniquement, il y a plein de jeux qui ont été faits sous Game Maker qui pourraient arriver. Je cite au hasard Hotline Miami,
bien sûr.
Nuclear Throne, ouais. Je dis ça, je dis rien. Du coup, ça fait plaisir pour Undertale aussi, qui a été fait également sur Game Maker et qui devrait arriver bientôt. Il n'a pas donné de date, mais tant mieux, Undertale, moi, c'est bon.
Les indés sont ouverts, de toute façon, sur les indés.
Ouais, ils ont amené pas mal d'infos sur Splatoon, donc avec des mises à jour, et le premier gros DLC de Splatoon, qui va s'appeler Octo Expansion, donc qui va amorter un nouveau mode histoire, ce qui est bien, moi, j'aime bien les modes histoire de Splatoon. Ouais, en solo, qui est les modes solo de Splatoon sont toujours très solides, donc ça fait plaisir.
Il est payant celui-là.
D'habitude, il y a tout plein de DLC qui sont gratuits,
mais
celui-là,
là,
c'est le premier payant. Franchement, vu tout le contenu gratuit qu'ils fournissent, ils peuvent se permettre de temps en temps de mettre un payant. Et on pourra jouer les Octaliens, qui sont donc les méchants habituellement dans Splatoon. Et ils ont annoncé un amiibo pour Dark Souls, et Patrick.
Oui, évidemment, c'était un des points majeurs de Nintendo Direct. Alors oui, alors amiibo compatible avec le Dark Souls qui arrive donc sur Switch, mais aussi sur les autres consoles, je crois fin mai. Alors ce qui est amusant, c'est que cet amiibo, bah, évidemment, il a fait réagir, parce que c'est un peu un décalage, même thématique, hein, d'avoir un amiibo.
C'est le deuxième amiibo qui n'est pas une licence Nintendo, qui n'est pas une Shovel licence Knight, dans Smash Bros. Ou Nintendo, il y avait Shovel Knight.
La différence, c'est que Shovel Knight, on le trouvait assez facilement, il a été distribué assez massivement, alors que celui-ci, en fait, il y a eu quelques indiscrétions qui ont suivi qui ont anticipé la mise en vente sur les précommandes sur les sites de vente qui ont évoqué, d'après certains comptes, notamment Twitter, plutôt bien informés en général, seulement 1000 exemplaires de mise en place day one au lancement. Donc c'était un peu la panique hein, sur les réseaux sociaux. Avec, on l'a appris un peu plus tard, deux exclusivités en retailer, en revendeur. C'est-à-dire que l'amiibo n'allait être disponible que chez deux sites marchands pour les précommandes. Donc c'était une ruée immédiate. En fait, il a été mis en vente, donc je ne sais plus si c'était avant-hier, donc c'était dans la semaine. Je crois que le premier revendeur qui l'a mis dans les 15 minutes, les 500 pièces, c'était en 2x500 pièces, ça a été vendu en même pas 10 minutes. Le deuxième a duré un petit peu plus longtemps, mais bon, tout a été écoulé, 1000 pièces évidemment, donc c'est un futur collector a priori. Oui, évidemment. Parce que c'est pour le travail, parce que évidemment, je vous laisse suivre un petit peu ce qui se passe dans la communauté. Non, puis il est marrant cet amiibo. Donc voilà, ça c'était une des grandes nouvelles de la semaine.
Et puis il me reste quand même le gros morceau de Nintendo Direct. Je finis rapidement, mais il reste Smash Bros. Qui a été annoncé toute fin du Nintendo Direct.
Très bien annoncé d'ailleurs.
Semi-surprise parce qu'en réalité, il était très très pressenti d'avoir un Smash sur Switch. Ils avaient fini Splatoon, ils ont remontré un trailer Splatoon un peu suspect, puis en fait ça c'était pas Splatoon, c'était Smash Bros.
C'était très affichu ça.
Twitter a explosé. On s'en doutait que ça allait se passer comme ça, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que ça se passe comme ça. Pour le coup, le mystère reste sur savoir est-ce que c'est un nouveau Smash Bros, est-ce que c'est une réédition complète du 4.
2018, donc c'est une question de mois, ça me semble rapide.
Alors franchement, au début je pensais que ça allait être un deluxe avec tous les DLC intégrés et on rajoute quelques personnages et basta. Plus le temps passe, plus franchement je me mets à penser que c'est éventuellement un 5. Il y a eu 4 ans, je crois que c'était 2014, hein, Smash Bros sur Wii U et 3DS. Donc c'est vrai que c'est court par rapport à la distance qu'il y a eu entre la version GameCube ou la version Wii et la version Wii U, mais ce serait pas complètement impossible. Mmh. Certains indices laissent y penser, c'est-à-dire que Namco, a priori, rien ne laisse penser que Namco travaille dessus.
On n'a pas de détails encore, en fait, sur le
peu de détails,
sur
hormis,
développement.
Hormis
sur
voilà.
Et il y a quand même le gros succès de Mario Kart sur Switch, ouais. Qui n'est qu'un deluxe, enfin une réédition, ouais, et qui a Splatoon, et donc ça marche. Donc pourquoi finalement?
Mais surtout, la vraie question, c'est pourquoi faire une com pareille, si, pourquoi ne pas dire, ils disent, la série Smash Bros. Arrive sur Switch. Pourquoi faire une communication pareille si c'est pour annoncer un portage, ça serait une erreur de com.
Parce que
donc,
le nouveau personnage, si tu l'habilles aussi, ce nouveau,
ouais, ouais. Parce que là, tu dis, Smash Bros. Ça arrive avec des nouveautés ou je sais pas quoi. Mais bon, là,
donc, ça, c'était un pré-teasing presque. Ouais. C'est vraiment que.
Bon, le mystère plane, on aura sûrement des news d'ici la fin de l'année, puisqu'il est prévu pour 2018.
Donc, on va vite en savoir plus.
Et donc, toi, Patrick, ouais, beaucoup d'impatience.
En fait, moi, une news qui m'a fait sursauter, évidemment, cette semaine, quand j'ai vu ça tomber. Je crois que cette news, je l'ai toujours attendue et je l'ai toujours craint, en fait. C'est cette info qu'un jour, Vertigo, Surfroid, un de mes films cultes, sera adapté en jeu vidéo. Voilà, on a eu l'annonce cette semaine. Donc, le chef-d'œuvre ultime de Hitchcock, pour moi, c'est son plus grand film. Et puis, il est aujourd'hui reconnu, des décennies après sa sortie, comme un des plus grands films de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un film d'une richesse incroyable en termes de thématique, en termes de visuel. C'est vraiment un film fondateur et vraiment, c'est un film très important. Il va être adapté donc en jeu vidéo. Et c'est le studio espagnol Pendulo qui bosse dessus. Alors, on va leur laisser le bénéfice du doute. J'ai envie de dire bon courage parce que, en fait, c'est un de mes films cultes. Et moi qui aime le cinéma et le jeu vidéo, j'ai toujours pensé au fond de moi, peut-être un jour Vertigo en jeu vidéo, mais en fond, est-ce qu'il faut le faire? Je ne suis pas sûr parce que l'histoire de Vertigo s'y prête pas forcément. Donc, c'est vrai qu'il y a un visuel très important, il y a des thématiques importantes. Est-ce que. Moi, je dis bon courage à Pendulo. Ça va pas être facile. C'est pas forcément moi le studio que j'aurais choisi parce que on rappelle Pendulo, c'est Runaway, c'est des séries plutôt cartoon avec un look.
C'est plutôt. Et récemment, Yesterday.
Voilà. Donc en tout cas, je suis curieux. Je suis curieux de voir. Eux ont annoncé une réinterprétation. Une adaptation libre de l'univers de Vertigo, donc je pense qu'évidemment ça va pas être un copier-coller du film, mais plutôt une réinterprétation
avec douleur. Il y a eu en 2001, en 2001 je crois, ou 2002 peut-être, un point and click Hitchcock qui est sorti.
C'est étonnant parce qu'il
y a un peu gênant.
Il y a eu ce titre qui était un mix-up de plein de jeux. On visitait des plateaux, ouais. Etc. Il y a eu un jeu Psychose aussi à la fin des années 80. Mais étonnamment, que ce soit Psychose ou les oiseaux, même, ce sont des thématiques qu'on peut imaginer. Plus facilement en jeu vidéo, on peut imaginer une excroissance scénaristique dans cet univers, et puis Vertigo, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas sur des thématiques d'horreur classique, on est sur quelque chose de beaucoup plus cérébral, de plus. Donc ça va être difficile. Moi je vais suivre ça de très près parce que vraiment, encore une fois, c'est un de mes films cultes et c'est un film que beaucoup de gens estiment énormément, c'est un film important du cinéma, donc bon courage en Pendulo. allez-y, parce que ça va pas être facile.
Alors, pas de com de la semaine dernière pour une petite raison, c'est qu'on a eu des problèmes de mise en ligne sur YouTube de l'émission de la semaine dernière qui n'est pas encore en ligne au moment où on enregistre. Je vais faire ça tout à l'heure. Donc, forcément, ça réduit un peu le nombre de commentaires.
Le temps, c'est que tu annonces que tu vas faire un truc qui va arriver dans le passé du futur.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai un peu de problème avec le temps en ce moment.
C'est ça.
Donc on fera un double la semaine prochaine. Bref, c'est le moment de commencer avec une production de Big Bad Wolf, un studio bordelais fondé en 2015, qui arrive chez Focus, édité par Focus et Cyanide. Enfin, je sais pas quel est le rôle de Cyanide là-dedans, mais enfin, ils sont sur la jaquette. Avec une série en 5 épisodes. Le premier s'appelle The Mad Ones et la série s'appelle The Council.
Dearest Mother, I came to this rock to find you. But I only find myself surrounded by schemers. The president, the soldier, the duchess, and the cardinal, and those who invited us here. But I won't be a pawn in their games. What brought you here? What have you left for me to find? Even still alive.
The Council, donc une enquête, un huis clos sur une île isolée, un manoir en haut d'une île, voilà, un truc un peu bizarre. Oui, on est en 1793 et donc il y a une réunion chez Lord Mortimer et nous incarnons donc Louis de Richet parce que sa maman, hein, Sarah, a disparu et Lord Mortimer lui a dit viens sur mon île et c'est le jour d'une grande réunion, un council. Hein, qui va réunir plein de gens importants. On y retrouve George Washington, Napoléon et quelques autres sommités. Ouais. Et voilà, et il va y avoir des choses étranges, Patrick.
Oui, alors moi, je l'attendais impatiemment, ce jeu. J'avais pu le prendre un petit peu en main chez Focus il y a quelques semaines et j'avais été intrigué par le principe, en fait. La promesse était d'offrir une relecture du jeu d'aventure moderne, c'est-à-dire très cinématographique avec les codes un peu la Telltale ou Quantique aussi, et d'y apporter une couche de jeu de rôle, une composante en fait avec donc un personnage qui va évoluer dans ses caractéristiques, dans ce qui va donc s'imbriquer dans les choix qu'on va pouvoir faire et dans dans l'éventail de possibilités que le jeu nous offre au cours de l'aventure. Alors là, on voit les images. C'est vrai qu'il y a un petit moment, moi, quand je l'ai lancé, j'ai eu un petit sursaut sur le visuel. C'est vrai que le visuel surprend au début. Et finalement, moi, je m'y suis fait assez rapidement. Je trouve qu'il a un cachet visuel, il a quelque chose. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon de fracasser comme ça, à la fois un côté très stylisé des personnages, avec un look très particulier. Ils sont à la fois un peu exagérés dans leurs proportions, mais avec quand même quelque chose d'assez réaliste dans leur texture, dans les visages, oui. etc. Ouais. Et mélanger ça avec des personnages historiques qui ont existé. Donc je trouve que ça crée un peu un frottement comme ça entre le réel, le fictif et l'imaginaire. Donc tout ça, pour moi, il y a un entrechoquage intéressant, visuellement et dans la thématique. Alors après, moi j'aime bien déjà le principe de la réunion secrète, etc. Moi ça m'a rappelé des classiques du jeu d'aventure qu'on a eu en France, j'avais noté. Le manoir de Morteviel, évidemment, qu'une enquête comme ça en lieu clos, incantation sur Amstrad que plus personne doit connaître aujourd'hui, mais qui était pareil aussi un jeu.
Sauf toi.
En France,
voilà, un livre dessus.
On sait aussi des jeux d'aventure comme ça qu'une atmosphère assez mystérieuse. Et moi, c'est un jeu qui m'a pris. En fait, je me suis vraiment embarqué dans l'aventure et pour moi, il réussit à la fois sur le pari esthétique. Moi, je trouve que ça marche. Il faut le temps de prendre le coup et de s'habituer à cet univers. Mais je trouve que ça fonctionne. Il a un cachet. Il tente des choses. Et justement, cette grande promesse qu'on avait de marier le point and click, plutôt tendance cinématographique d'aujourd'hui, moderne, avec cette composante RPG, pour moi, elle marche. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a des vrais moments où cette fusion des genres fonctionne, à mon avis, notamment lors des dialogues. Parce que le jeu est construit sur... Il y a plusieurs... comment dire, séquences dans la partie. Il y a des séquences de déambulation dans les décors. Donc là, on est vraiment sur l'héritage du point and click traditionnel où là, on balade plus sa souris dans les décors, mais on se balade sur des objets activables qu'on va pouvoir déceler et examiner, etc. On a quelques énigmes aussi au cours de ce premier épisode. On a des choix, un peu à la telle-telle. Voilà, il y a deux personnages en face de moi, lequel je vais choisir, auquel je vais parler. Il y a des choix qui sont souvent irrémédiables. C'est-à-dire que si on choisit une solution, on ne pourra pas faire l'autre dans cette partie-là. Donc, c'est des choix à peser. Et puis, il y a les dialogues. Les dialogues, ils sont vraiment importants. Ça s'appelle, je crois, les confrontations dans le jeu. Donc, ça donne tout de suite l'idée du côté assez... on n'est pas que sur du combat, quasiment, lors des dialogues qui sont vraiment, pour moi, le cœur du jeu, parce que c'est là où cette imbrication des genres entre vraiment en... se fusionne et devient pratique. C'est-à-dire qu'à la fois, lors des dialogues, on va utiliser la connaissance qu'on a pu récupérer des environnements, d'avoir lu un document, une information qu'on a retenue ou quelque chose qu'on a revu dans les décors, etc. Et puis, ça emploie aussi les capacités qu'on va avoir fait évoluer de notre personnage dans tel ou tel domaine. Est-ce qu'il va être plutôt psychologue? Est-ce qu'il va avoir des connaissances sur l'histoire, des connaissances sur l'ésotérisme? Voilà, il y a plusieurs branches comme ça qui vont permettre de détailler notre personnage, de lui donner certaines capacités qui vont jouer pendant les dialogues. On va voir certaines choses qu'on va pouvoir débloquer si on a fait progresser nos personnages dans tel ou tel domaine. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. En tout cas, ça permet d'envisager différemment les dialogues.
Et il y a des
compétences sociales,
c'est des
en fait,
compétences sociales et des connaissances aussi qu'on va récupérer. Dès le début, je crois qu'on a le choix entre plusieurs professions, et plutôt porté vers l'occulte, vers le côté détective, vers le côté diplomatie. Il y a plusieurs comme ça grandes.
Il y a trois archétypes qu'on choisit dès le départ en fait.
Et qui vont orienter plus ou moins la façon dont notre personnage va évoluer et donc aussi comment nos dialogues avec les personnages vont évoluer. Et ça, encore une fois, c'est le tronçon central du jeu.
Je t'ai vu, je t'ai laissé parler. Hein.
Oui, il faut pas hésiter. Là.
Non, mais voilà, non, c'est la confrontation. J'ai quand même prévenir que évidemment, il y a quelque chose de très subjectif et de très. Ouais. C'est les tripes qui parlent à beaucoup de moments, mais. En fait, j'ai eu un rejet absolument radical et définitif de ce jeu.
À quel niveau ?
À tous les niveaux. Je trouve que le visuel qui mixe, comme tu l'as dit, une caricature, un très grossi en fait des visages et tout ça. Plus ajouté à une texture ultra réaliste, parce qu'on est quand même sur les rides des personnages, enfin, c'est-à-dire que là, vraiment la texture de la peau, des vêtements, des choses comme ça, on a l'impression d'avoir du dernier Unreal Engine qui est sur la place. Enfin, et du coup, il y a ce mix entre. Moi, j'ai l'impression qu'on est en plein dans l'Uncanny Valley. En fait, on est en plein dans cet endroit. Alors, même si c'est pas l'Uncanny Valley,
on n'est pas sur le reflet de la réalité.
Mais moi, on est sur quelque chose qui me met mal à l'aise.
Ah, je suis d'accord que c'est pas assez réaliste.
Alors qu'il y a d'autres endroits où ça me dérange pas d'être mal à l'aise face à une histoire, face à une situation, etc. Face à une image. J'ai un problème avec ça.
Moi, ça m'a fait. Je te coupe deux secondes. Moi, ça m'a fait ça au tout début. Très vite, on s'y fait, ces personnages. Je trouve au contraire, ce jeu, il a une patte. Alors, on peut critiquer, on peut être d'accord, pas d'accord, mais il tente quelque chose. Ça change tellement du cel shading qu'on a à longueur de temps dans ces jeux-là. Au moins, il tente quelque chose. Et ça, je trouve ça intéressant.
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on sent bien. On sent bien qu'on n'a pas. On n'a pas la production d'Uncharted derrière. Hein. On n'a pas les coûts de production. Pourtant, ils arrivent à faire quelque chose qui, graphiquement, il y a une ambition. Il y a une ambition et il y a quelque chose qui est réussi en termes de motion capture, en termes de. On sent qu'aujourd'hui, en 2018, il commence à être possible de faire des jeux un peu.
Une patte baroque, une vraie patte, un vrai look.
Par contre, ça me rappelle vachement ce qu'on pouvait avoir dans Dishonored, un petit peu.
Il y a quelque chose. En plus, on est en 1793. Ouais. Enfin, on est dans une époque un peu commune. Et c'est vrai qu'il y a dans les décors notamment, il y a quelque chose qui rappelle Dishonored. Évidemment, avec un budget un tout petit peu moindre. Mmh. Après, il y a l'histoire. Alors l'histoire, je ne sais pas qui a écrit cette histoire. Je ne sais pas qui a décidé de présenter les choses comme ça. Mais ils pensent. Au pluriel, il ou elle ou je ne sais qui, pense que c'est suffisamment intéressant pour nous prendre complètement à rebrousse-poil et faire comme si on allait s'intéresser a priori à cette histoire. C'est-à-dire que on va pas faire l'effort d'introduire les gens, d'introduire de. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de choses qui entraînent le joueur. Il y a une situation comme ça qui est dit, on va vous amener sur une île avec plein de prérequis comme quoi le personnage n'est pas du tout un personnage amnésique. Il y a un passé derrière monstrueux avec un background dont tu ne connais rien. Mais on n'arrête pas de faire des allusions à un flashback de ton propre personnage. C'est-à-dire que c'est toi qui le joues, qui est censé le jouer. Toi, en tant que joueur, tu ne connais rien. On te sous-entend que tu vas le découvrir. Mais si je joue un personnage, j'ai envie d'avoir les cartes en main pour l'incarner. Non, il y a énormément de choses derrière. Il y a une société secrète, il y a des interactions avec la mère, il y a toute une histoire avec cette mère qui a l'air hyper importante, mais dont on va découvrir des choses que c'est déjà le personnage, mais nous, on va le découvrir après. Donc, il y a une sorte de décalage comme ça, permanent, entre ce que nous, on connaît, ce que le personnage connaît, ce que machin. Et puis, voilà, il y a pour moi cette prétention à dire... notre histoire, elle va être suffisamment intéressante, allez-y. Moi, j'ai envie de dire, non, mais prouvez-moi que votre histoire est intéressante avant que j'ai envie d'y aller. Enfin, il faut me donner envie de rentrer dans cette histoire.
Après, c'est pas qu'une histoire de décalage entre le personnage que t'incarnes et son identité.
Il y a des jeux avec des personnages dont on découvre le passé. Bien sûr, mais là, c'est un ensemble parce que ce n'est pas seulement une histoire. c'est un château, c'est une bible. Mmh. On a juste l'impression de rentrer dans un univers qui est monstrueux, qui est énorme, mmh. Et il faut avoir envie de le grimper, mmh. cet Everest.
On se trouve aussi dans la place de ce perso qui est parachuté dans l'endroit, qui vient à la place de sa mère, en fait, qui est à la recherche de sa mère disparue. Et on se retrouve un peu dans sa situation à lui. À essayer de capter un petit peu ce qui a pu se passer.
Envie. On n'a pas envie. Ah, on n'a pas envie.
T'as pas envie. Moi, j'ai alors, plutôt bien accroché.
Et reste donc le dernier élément, et non pas des moindres, c'est que quand on raconte une histoire, eh ben, on veut raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte depuis quand même quelques années que quand on veut raconter une histoire, c'est l'histoire qui est importante. Et on a bien vu au fur et à mesure du temps, par exemple, que y a eu beaucoup d'avancées hein, dans la fiction en jeux vidéo. On peut fixer le début de cette nouvelle recherche sur la narration, évidemment, avec The Walking Dead, hein, de Telltale, et puis avec des recherches du côté de Quantic, des évolutions avec Firewatch, avec Oxenfree, avec Edith Finch, avec Gone Home, avec plein de choses qui tentent des choses, etc.
Firewatch, c'est pareil, hein, t'es balancé dans une situation.
Oui, mais...
t'as un long moment où on t'explique.
T'as une introduction qui est brillante dans Firewatch, qui est par des dialogues, par des choses comme ça, c'est assez...
Firewatch, c'est aussi les dialogues qui font la narration.
Mais surtout, finalement, ce qu'on peut retenir, parce que chacun teste des choses, Edith Finch, c'est pas la même chose que Gone Home, c'est pas la même chose que Firewatch, mais c'est que on met l'histoire au centre. C'est-à-dire que, et on se rend compte que c'est assez... On est pur. Notamment, on épure le gameplay, l'interface, ce chose comme ça, pour plonger le joueur au cœur de l'histoire, pour lui donner cette impression, ce sentiment de mettre en scène, de choisir un peu la manière dont il va ressentir, dont il va interagir avec cette histoire. Même s'il n'est pas forcément acteur, on sait très bien que c'est plutôt des histoires linéaires, etc. Et là, on a une sorte d'interface gigantesque qui nous arrive en pleine face, qui est ultra présente, tout le temps présente, et qui, moi, m'a sorti complètement de le côté RPG. Alors, le côté RPG, bon, ça semble que ce soit un choix, enfin, je pense qu'on ne l'aura pas imposé, mais m'a semblé complètement saugrenu. Je ne comprends pas. Alors, par exemple, les jeux de Telltale, quand ils imposent des choix, effectivement, qu'on retrouve sauver ce personnage ou ce personnage, on a un côté metteur en scène. Dans quelle direction est-ce qu'on veut amener cette histoire, etc. On n'a pas forcément envie de rejouer au jeu à la fin. Moi, j'ai pas refait l'épisode 1 de, enfin, le The Walking Dead saison 1.
C'est pas le but.
On est constamment sur des choix qui nous sont interdits, parce qu'on n'a pas la compétence, parce qu'on n'a pas l'énergie suffisante, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant, on nous interdit des choses. On est non plus dans une situation de metteur en scène, un peu de comment est-ce qu'on va conduire cette histoire, comment est-ce qu'on va rentrer dans cette histoire, comment on va s'investir dans cette histoire. On est dans une sorte de lutte. On lutte avec l'histoire. Il nous fait lutter contre l'histoire. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on gagne des choses, qu'on trouve des éléments, qu'on monte en niveau pour pouvoir profiter de cette histoire qui est écrite. Et ça, moi, j'ai pas envie de lutter avec une histoire. J'ai pas envie de lutter avec un jeu pour qu'il me montre cette histoire.
Ce que tu essaies de dire, c'est que l'histoire est placée comme une récompense et pas comme une finalité.
Et ça, c'est justement c'est moi, à une époque, quand même, les point and click et les jeux d'aventure, même si ils étaient très bien écrits, etc., t'avais juste l'impression des fois que on nous racontait une histoire et puis on nous mettait un sudoku pour et il fallait résoudre un sudoku pour avoir la suite
de
l'histoire.
Et
là, en plus, tu rajoutes cette frustration, et en plus on te montre par des dialogues bloqués, grisés, ce que tu ne peux pas faire.
Au contraire, moi, je trouve
ça, c'est classique. Vous n'avez pas les guts pour sortir cette phrase.
C'est marrant, on en est sorti. Justement, la narration dans le jeu vidéo a fini par comprendre que c'était pas.
Ça dépend. Si tu mets un système cohérent derrière, tu peux faire ce genre de jeu. Genre dans Persona, ça arrive très souvent, faire cette action. Eh ben non, mon gars, parce que t'as pas assez de guts, t'as pas monté assez ton.
Et Persona n'est pas qu'un jeu narratif.
Je suis d'accord. C'est pour ça que
tu l'as mal vécu. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, en fait. Moi, j'ai même refait, en fait, certains chapitres en voyant que justement que j'avais ces
ça m'a frustré aussi de voir, ah bah tiens, ça je peux pas le faire. Donc j'ai repris certains passages. Le jeu d'ailleurs permet de reprendre des chapitres en arrière, ce que font pas tous les jeux. Et justement, pour débloquer, voir comment je pouvais évoluer différemment, voir si je pouvais pas débloquer ces informations ou ces capacités, et voir comment je pouvais, parce que j'avais mordu aussi au principe. Alors, moi, c'est marrant, j'ai trouvé que justement l'intensité, le jeu là, lors des dialogues, qui sont encore une fois, c'est ce que j'ai, ils sont centraux, c'est vraiment les moments où il y a une tension qui se crée. Alors, je vais dire que je force peut-être le trait, mais moi, ça m'a rappelé les Monkey Island, quand on avait ces dialogues, les duels d'insultes entre personnages, qui étaient vraiment un passage culte. Ah oui, il y avait aussi ce gameplay de répondre, comprendre les mécaniques de qu'est-ce que je dois répondre à telle réponse, enfin, tel élément, etc. Pour moi, c'est une bonne chose d'apporter un côté ludique et peut-être via un système de récompense, comme tu dis, qui est peut-être...
Frustration-récompense.
Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Au contraire, j'ai trouvé que ça réintensifiait ce côté dialogue qui est important dans un jeu d'aventure.
Ce jeu...
Ça remet des nouveaux enjeux.
Moi, c'est une suite d'hérésies. C'est une hérésie complète, ce jeu.
Moi, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas parfait, je suis d'accord, mais qui tente des choses.
C'est anachronique. C'est complètement anachronique. Ce jeu n'a pas de... C'est un jeu de 2018... qui n'a rien appris, qui a la prétention de savoir comment faire, alors que, enfin, je sais pas, je trouve prétentieux et anachronique et hérétique.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve au contraire, quand on voit les tels qui ronronnent depuis des années avec le même visuel, les mêmes mécaniques.
Je suis d'accord, j'ai du mal de ce qui est devenu tel.
On n'arrive plus avec les tels, mais ça fait des années que j'y joue en. Y a rien.
Je te parle pas de Telltale, enfin, je te parle d'autres choses.
Si on compare un petit peu aux autres titres du genre, je trouve qu'au moins celui-ci tente des choses. Ça peut être complexe. Je suis d'accord que l'interface n'est pas du tout.
Des choses aujourd'hui.
On n'est pas sur une interface limpide, mais on sent qu'il y a une richesse, il y a quelque chose. Il faut. Encore une fois, on est sur un premier épisode. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je trouve que la promesse est là. Moi, pour moi, il remplit ce que j'en attendais après avoir vu quelques minutes de jeu. Je trouve qu'il remplit ce que j'attendais. On est sur un premier épisode sur 5. Donc c'est difficile aussi de jauger un jeu comme ça. Je trouve que moi j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai relancé la partie, j'ai fait des choix différents, j'ai cherché d'autres choses. Il y a aussi ces dialogues qui sont, si on se plante, on se plante. Le jeu continue, il y a ça aussi. Et ça, on le revoit en relançant.
Ça au moins ils ont appris non, mais ça, c'est important un truc, il n'y a pas de game over. Hein.
Ou ces actions qu'on va faire.
Il manquait plus que ça, mais limite t'es dans un jeu de rôle. Moi ça m'aurait, à la limite c'était presque dans la logique, ils vont me foutre un game over quelque part. Mais non, heureusement.
Et ça apporte aussi cette tension à des dialogues, on se dit attention, là je peux peut-être cacher quelque chose ou pas, ou bon, bref. Et moi, j'ai refait plusieurs parties et j'ai eu des fins de ce premier volet différentes, radicalement différentes, des personnages complètement différents que j'ai pu suivre. Donc, la porte est ouverte. Pour moi, c'est plutôt vraiment très bon sur ce premier chapitre. On va suivre la saison sur les cinq suivants vont sortir en 2018.
Je serais curieux que tu reviennes avec le cinquième.
Exactement,
sur la durée. On reparlera avec le cinquième épisode.
Je sais pas si tu reviendras, mais...
Mais bon, parlons de narration justement, et voilà, on parle de gens qui tentent des choses. Là, peut-être, c'est peut-être une des expérimentations les plus osées, et pas forcément la plus réussie, mais on va en parler. Mais Where the Water Tastes Like Wine. Wander the land. Hear the earth will shake, but the bough she brave won't put off fear in me. Cause I see a land long now, so I can explore. Where the Water Tastes Like Wine. Voilà, donc je l'ai prononcé pour la dernière fois de cette émission. Hein, voilà. Et en plus, je n'ai pas raté. Donc, j'ai arrêté. Dimbulb Studio et Serenity Forge, deux studios américains, et surtout aux commandes John Mann Nordhagen, qui est le codeur principal de Gone Home. Hein, voilà, pour l'unique codeur de Gone Home, pour voir la généalogie, finalement, de ce jeu. On en parlait. Hein, voilà, les expériences, essayer d'explorer ce que peut être la narration dans le jeu vidéo. Là, on est sur une expérience un poil radicale. Corentin, explique-nous, c'est quoi le propos ?
Alors moi, je suis d'un point de vue de la narration, j'ai écouté votre débat très intéressant sur le jeu précédent. C'est vrai que d'un point de vue narration, je suis un peu moins touché par les jeux narratifs à la Telltale et compagnie parce qu'ils essayent trop de se rapprocher du cinéma. Donc je suis toujours content quand un jeu essaye justement d'explorer son propre médium qu'est le jeu vidéo pour essayer d'apporter une expérience différente, des façons différentes de raconter des histoires. Pour ça, je trouve que les Japonais sont encore les plus forts avec des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui utilisent vraiment tout ce qui est possible dans le média. Ici avec Where the Water Tastes Like Wine, nous avons donc un jeu qui est assez étonnant et qui en effet expérimente beaucoup. Alors on va peut-être raconter un petit peu le contexte. Le jeu se déroule dans un États-Unis un peu intemporel. On ne sait pas trop quelle période. C'est vraiment des périodes très différentes en fonction des personnages avec qui on parle. Hein. On peut être sur la vague hippie, plutôt des années 60-70. On peut aussi tomber sur des mecs début du siècle, du 20e siècle. Donc c'est très 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 vaste. Hein, comme,
une Amérique historique.
Une Amérique un peu imaginée, un mythique, petit peu mythique.
Ouais, voilà. Mythique, voilà, c'est ça.
Donc le jeu démarre, on entre dans un saloon ou un bar et on joue à une partie de cartes contre un loup qui est doublé par le chanteur Sting. Voilà, c'est comme ça. Voilà,
voilà.
Et on perd de manière un peu étonnante, puisqu'on voilà, c'est un peu magique. On se retrouve avec des cartes de tarot alors qu'on joue au poker. Et ce loup-là, repayer sa dette, va nous demander de parcourir les États-Unis, de récolter des histoires et de les redistribuer. Voilà, on sert un petit peu de passeur d'histoires à travers tout le pays. Et donc, on se retrouve donc sur une carte du monde, une carte des États-Unis plutôt, sur laquelle on joue un squelette avec son petit baluchon, voilà, vraiment, voilà, Uncle Berry comment il s'appelle,
bon, j'ai oublié,
Tom Sawyer, merci. Et du coup, voilà, on marche tranquillement, il y a des maisons, il y a des grandes villes hein, qui sont bien là, il y a des routes avec des voitures qui passent, et puis, tiens, une maison, allons voir, une petite icône qui clignote, on marche très lentement, on va parler, bonjour, qu'est-ce qui se passe, et là, on raconte, vous rencontrez une dame qui vous dit, oh là là, mes récoltes ne vont pas bien aujourd'hui, et puis voilà, il y a une histoire qui se raconte, un petit conte très très rapide de quelques paragraphes qui se déroule, et là, on nous indique, voilà, bravo, vous avez une histoire supplémentaire à votre arsenal, très bien, ben, on continue de marcher, hop, on marche sur la carte des États-Unis très lentement toujours, ça commence à devenir
des choix, je crois,
oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser,
on contribue, il y a dizaines de types d'histoires différentes,
en fait chaque histoire peut être rangée dans une des cartes du tarot en fait, donc voilà, il y aura la tour, la roue de la fortune, la mort, voilà, tout ce genre de choses, voilà, des thématiques, et en fait qui vont avoir des thèmes, donc ça pourrait être la famille, ça pourrait être la mort, ça pourrait être la joie, ça pourrait être the lovers, c'est l'amour, ce genre de choses.
La tristesse.
Ça veut pas forcément dire d'ailleurs que tout ce qui est dans l'amour va être heureux et joyeux. Ça peut être des histoires d'amour tragiques. Ça peut être aussi des histoires malheureuses qui se termineront bien ou qui vont être amusantes. Donc voilà, elles vont pas forcément donner la couleur, hein, ces cartes de tarot, à l'histoire. Ce qui va arriver en fait, c'est que au-delà de ces petites histoires qu'on peut récupérer ça ou là, on va arriver par moments sur des camps, en fait, des feux de camp qui apparaissent sur la carte des États-Unis. On s'arrête et en fait, on va passer la nuit avec la personne qui va être à ce feu de camp là. Ça va être aussi des vagabonds, donc on peut avoir un gamin qui traîne avec son chien, qui vagabonde, on peut tomber sur une guitariste qui aura, voilà, on va apprendre qu'elle a un petit peu vendu son âme au diable pour avoir ses talents et qui a abandonné son frère, voilà. C'est des histoires assez tragiques aussi, mais c'est des personnes qui, voilà, sont pas bien casées, rangées des voitures, voilà, elles sont en train de marcher sur les États-Unis aussi, elles sont vagabondes, quoi. Ouais. Et ces personnes-là, vous vous demandez également.
C'est un peu l'histoire des marginaux, voilà. qui ont aussi nourri le mythe américain.
Et ces personnes-là vont nous demander de, voilà, aujourd'hui je me sens bien pour une petite histoire triste, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire triste? Alors on va regarder dans les histoires qu'on a récupérées au fil de nos voyages pour une histoire triste. Alors on va, tiens, celle-là, il me semble qu'elle est triste, paf. Et puis elle va être satisfaite ou non, et ça va remplir une jauge qui va débloquer le chapitre suivant. En général, c'est 3 chapitres, mais moi, je suis tombé sur des personnages qui proposent 4 chapitres, et de plus en plus difficiles à débloquer, et qui vont du coup nous délivrer de plus en plus d'informations sur leur propre personne, ce qui va...
Leur propre histoire.
C'est leur propre histoire qui va s'ajouter à notre arsenal d'histoires et tout ça. Et comme ce sont des histoires véridiques, ce seront un peu nos jokers, c'est-à-dire qu'on pourra les utiliser sur n'importe... Genre, je veux une histoire triste, et ben tu vas raconter cette histoire véridique qui pourra servir d'histoire triste, dramatique, drôle, flippante, tout ce que tu veux. Et donc, on continue comme ça, et au fur et à mesure, on rencontre d'autres personnages, on rencontre d'autres villes, on marche toujours aussi lentement sur cette carte, et je crois qu'on commence à toucher un petit peu ce qui va pas dans Where the Water Tastes Like. C'est-à-dire que, alors, déjà, premièrement, voilà, dans la mise en place, ce personnage qui marche très lentement, enfin, c'est ok, je comprends la notion de voilà, je traverse les États-Unis, ça doit être un minimum long, il doit y avoir une notion de voyage, tout comme Wind Waker à l'époque, vous avez mis des longs voyages en bateau qui pouvaient être parfois monotones, mais voilà, ça faisait partie de l'expérience voyage de la chose. Sauf que là, c'est pas drôle, quoi. C'est vraiment pas drôle du tout. Le personnage est très 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 lent. Alors, tu m'as appris à l'instant qu'on pouvait aller plus vite grâce à des combos de sifflement. Hein. Ouais. On peut siffler sur la musique. On te l'explique pas.
Parler d'interface un petit peu voilà. Compliqué là. On est quand même pas mal. Hein.
Donc je l'apprends, j'essaierai, hein, mais tu me l'apprends.
C'est vrai que c'est pas limpide. Hein.
Voilà, c'est pas limpide. On va très lentement. Au bout d'un moment, ça, au début ça va, mais alors au bout de deux heures de jeu, t'en as juste marre, quoi. C'est plus possible. C'est un choix. C'est un choix qui. Tu sens que c'est un choix du développeur, mais bon, ce choix-là, bon, je suis pas sûr qu'au playtest on lui ait dit que c'était super cool, quoi. Au bout d'un moment, il faut
que
ton jeu.
Playtest. Ouais.
Vrai problème.
Donc on va très lentement. Deuxième problème. Alors, le jeu n'est pas d'une beauté particulière.
Les choix de dessin.
Alors, les illustrations sont très jolies.
La DA, entre guillemets.
Et la diction, le parler.
Alors, on va parler de la DA si vous voulez. La DA a des magnifiques musiques, de magnifiques doublages, de magnifiques textes. Une très bonne traduction, ça va faire plaisir.
Alors, les textes, j'ai lu chez notre ami Nets de Canard PC, hein, donc qu'on retrouvait la fine fleur de la narration interactive américaine, avec des noms comme Emily Short, Kevin Shaw, Kat Manning, Bruno Dias, Olivia Wood. Olivia Wood, je connaissais, mais...
En fait, quand vous allez dans les crédits, au début, je croyais que c'était le doubleur qui défilait pour chaque histoire de personnage, mais non, en fait, c'est ceux qu'ils avaient écrit. Donc, c'est vraiment un travail à multiplume, quoi. Donc, c'est vraiment un jeu choral de narration, on va dire, d'une certaine manière. Alors moi, je connais aucun des noms que j'ai vus.
Le principe, quoi. D'avoir des histoires comme ça qui s'entrechoquent, qui se changent d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Qui évoluent les histoires, elles se transforment. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve.
C'est vrai que vos histoires sont un peu comme vos Pokémon. Hein. Vous les sortez dans votre équipe d'histoires, vous ne pouvez pas toutes les équiper en même temps. Et vous pouvez parfois rencontrer un personnage qui va vous re-raconter la même histoire, mais entendu d'une manière un peu différente. Et ça va vous renforcer vos histoires, ce qui vont les rendre plus crédibles. Donc, c'est-à-dire qu'elles auront plus d'effet quand vous allez les raconter, si elles sont effectives. Si elles ont un effet.
Il y a des leveling d'histoire, en fait.
Mais alors après, voilà. Donc, je vais revenir sur moi, des choses qui vont pas, donc on se déplace lentement sur la carte. Alors, mais techniquement, le jeu est pas top, quoi. La carte du monde est pas belle, quoi. Le ciel est
sur
pas.
Sur du polygonal un peu basique.
Ils auraient mieux fait de faire de la 2D ou autre chose, mais là, j'aurais préféré un petit squelette en 2D avec deux animaux.
Mais moi, c'est très. Je trouve que ce choix 3D de map est bizarre. Il y a un côté hors sujet là-dedans qui est bizarre. Ouais.
Troisième problème, c'est vrai que pour moi, certaines histoires étaient drôles et en fait, non. Donc, c'est toujours le même problème. C'est dans les jeux à narration, quand vous faites une réponse, vous attendez une réaction. Bah non, c'est pas la bonne réaction que vous avez en face. Bon, c'est toujours la limite, souvent, des jeux narratifs. On va pas non plus vous indiquer, si vous faites ça, vous allez ajouter un point de bonheur et un point de tristesse ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je trouvais des histoires marrantes. Et en fait, non, elle est triste, celle-là, t'as rien compris, quoi. Ah bon, d'accord. Merci, jeu, de me prendre de haut, quoi. C'est bon, c'est pas de ma faute. Quatrième souci de ce jeu-là, à mon sens, alors c'est peut-être plus personnel, là, mais le fait qu'il n'y ait pas un fil conducteur, vraiment, hormis les différents mecs des feux de camp,
on a envie de connaître l'histoire, et en fait, qu'ils nous préviennent, après, je vais aller à tel endroit, donc vous pouvez me retrouver près de Boston ou près de.
À part ces fils conducteurs, là, il n'y en a pas vraiment. Du coup, alors les histoires sont bien écrites, elles sont pour la plupart intéressantes, c'est souvent des histoires un peu surnaturelles ou fantastiques par moment, genre le cow-boy qui veut capturer le vent avec son lasso ou ce genre de choses. Bon, au bout d'un moment, on en soupe, quoi. Il y a trop de petites histoires, on n'arrive pas à s'attacher à personne, c'est compliqué d'y retourner, surtout avec les problèmes de déplacement et compagnie. Donc pour moi, c'est un vrai problème, mais structurel, quoi. C'est un choix qu'ils ont fait. Voilà, pour ma part, ça fonctionne pas. Peut-être que sur d'autres personnes, ça va fonctionner. Donc voilà, c'est toute la somme de choses comme ça fait que après 5 heures, et puis dernier problème aussi, l'interface qui n'est pas claire. Par exemple, j'ai découvert au bout de 5 heures de jeu, j'arrête de jouer et je suis allé sur Steam. J'ai regardé un petit peu les avis des gens, parce que ça m'intéressait de savoir ce que les gens pensaient du jeu. Et là, je vois un screenshot d'un menu. J'ai jamais vu ce menu. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?
Alors, c'est la map, non, c'est pas ça ?
Ouais, alors, je relance le jeu. Et là, j'appuie sur toutes les touches de mon clavier, paf, ça ouvre un inventaire. Non, je découvre que je peux me téléporter. Je découvre que je peux changer mes histoires pour pas présenter les mêmes à une personne. Alors qu'il y a une personne qui me demandait des histoires joyeuses, j'en avais plus. J'étais en mode meuf, j'ai plus d'histoires joyeuses, je suis désolé. Et je découvre dans ces menus que je peux les changer au bout de 5 heures de jeu. Mais j'étais vénère, quoi. J'étais en mode, tu aurais pu me le montrer soit via un tuto, via un infobulle.
C'est dans le menu, en fait. Il faut aller chercher dans le menu, ouais. Options, machin. C'est là que j'avais.
Alors, il y a peut-être une infobulle qui me l'a dit que j'ai mal lu ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est ma faute.
En fait, les infobulles sont assez intenses au début, en fait. Donc,
Bah, coup de malchance en plus, c'est que d'habitude je joue à mes jeux à la manette. Là, j'ai joué au clavier parce que je pensais pas que ça se jouait à la manette. Au clavier, j'aurais appuyé sur Y et j'aurais vu que ça ouvre le menu. Oh là là, mais j'étais vraiment fâché contre le jeu. J'aurais pu mieux apprécier ce jeu si j'avais su qu'on pouvait se téléporter, qu'il y avait une carte. Parce que votre personnage, quand vous allez voir les personnages dans un camp, ils vous disent « Ouais, bah je vais de ce côté-là ». Ils vous montrent la carte qui s'efface et je fais « Oh là là, faut que je retienne que ce personnage est là, mais j'ai peut-être pas envie d'aller voir tout de suite. Donc faut que je retienne qu'il est à côté de New York ou qu'il est à la limite entre, je sais pas, deux États des États-Unis. Mm-hmm. Ça va être compliqué, je connais pas la géographie par cœur des États-Unis. Un petit peu, t'as un peu confiance en mes capacités cognitives, le jeu quand même. Alors qu'en fait, il me donne les outils, mais juste il me précise pas qu'ils existent. Bon, normalement, je suis d'accord à ce qu'on expérimente avec la narration, mais oubliez pas que c'est un jeu vidéo à la fin. Donc, pensez qu'il y aura une multitude d'expériences. Et si moi, j'ai une mauvaise expérience avec ce jeu-là, ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui en auront une. Alors, la mythologie des États-Unis est très bien retranscrite, certes, mais elle est tout aussi bien retranscrite dans un jeu comme Kentucky Route Zero, qui est également un jeu narratif, qui est pareil, intemporel, qui reprend la mythologie.
Bizarrement, on fait le parallèle très vite. Hein.
Ah, mais oui. Mais alors,
Les routes, avec la map, avec le voyage,
avec côté, voilà, grands espaces américains.
Avec ces histoires qui émergent, ces histoires émergentes.
Exactement. Ouais. Et Kentucky Route Zero apporte les mêmes genres de petites histoires un peu fantastiques. C'est complètement barré, mais c'est génial, Kentucky Route Zero. Mais Water, on va l'appeler comme ça. Water, c'est très bien d'essayer et tout, mais en fait, ce qu'essaye de faire Kentucky Route Zero, ce qu'essaye de faire Water, c'est Kentucky Route Zero. À mon sens, différemment.
Sans le moteur d'une narration qui t'embarque directement.
Voilà, et on suit des personnages en Kentucky Route Zero. Il y a aussi plein de squelettes dans Kentucky Route Zero, bizarrement, je pense qu'il y a un parallèle à trouver.
Tu t'arrêtes pas, c'est vrai qu'une fois que t'as lancé le jeu, t'es pris dans
et
le...
Et c'est vrai que quand j'ai lu les tests, notamment un excellent critique plutôt de Corentin Lamy sur Le Monde, quand j'ai lu ça, c'était en milieu de game, j'ai fait « Ouais, ok, je comprends l'intérêt du jeu, ça me touche pas, mais ça va finir par me toucher ». Et puis au bout de 5 heures de jeu, je me suis rendu compte que j'ai pris plus de plaisir à lire le test de Corentin Lamy qu'à jouer au jeu. C'est qu'il y a un problème au bout d'un moment.
Patrick, tu as un peu joué
Juste quelques heures. Mais pareil, j'ai un peu bloqué moi, sur l'interface. Je trouvais que c'est pareil, problème de visibilité. Par contre, j'ai bien aimé moi, cette idée des histoires qui vivent en dehors du personnage, en fait. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir comme ça un écosystème avec le joueur qui est là, mais avec un monde qui est organique autour de lui, avec des choses qui se passent par rapport à ses actions. Et c'est marrant, on fait le parallèle avec The Council quelque part. C'est étonnant, c'est qu'on est sur le même problématique de narration avec des systèmes embarqués qui essaient des choses. C'est pas parfait à chaque fois, mais on sent qu'il y a des tentatives de pousser un petit peu les codes et les schémas habituels.
Ce qui m'a vraiment séduit dans Where the Water, je ne prononce plus en entier, mais c'est le côté méta-narratif. Oui, en fait, c'est pas un jeu narratif, c'est un jeu sur les narrations, en fait.
C'est un jeu à histoire, c'est un jeu d'histoire.
Voilà, c'est cryptique si on n'a pas envie justement d'entrer dans ce genre de trip.
Oui, voilà,
on peut rester vraiment à l'extérieur.
Pour moi, on est dans l'expérimentation. C'est pas un jeu parfait. C'est un jeu qui va chercher. Je pense que il y a des choses qui ressortiront. Il y a des choses qui.
C'est une vraie expérience.
Il y a des choses qui ressortiront de ce jeu. Cette évolution des histoires, cette façon de créer la légende comme ça, de parcourir des légendes déjà écrites. Je trouve qu'il y a vraiment.
Mais c'est comme
on a énormément de choses intéressantes et surtout voilà il y a une DA, les dessins sont extraordinaires, je trouve. La musique est incroyable. Il y a cette sensation de voyage un peu lent, certes, mais
on peut faire du stop d'ailleurs, on l'a pas dit.
Oui,
faire du
stop,
ça permet d'accélérer le trajet.
Tu vois, c'est insupportable. Ton personnage, il est lent. Alors, ouais. Et c'est vrai, c'est un peu réaliste. Et en fait, tu fais du stop, sauf que comme pour le stop normal, toutes les voitures ne vont pas s'arrêter. Ouais, donc, faut attendre qu'une voiture veuille bien te prendre pour aller un peu plus vite. Et pour suivre les routes.
Non, mais on sent que le propos a été aussi de ralentir, de laisser le joueur penser à ses propres histoires, les intégrer.
On a les road movies, c'est peut-être un road game. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui manque, c'est un moteur narratif, un vrai projet de qu'est-ce qui va se passer après. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu en tant que joueur. Il faut vraiment se prendre par la main et dire j'avance parce que j'ai pas le moteur. J'ai pas le moteur.
que tu vois, je peux avoir dans The Council parce que je vais avancer sur.
On va enchaîner parce qu'on a encore deux jeux dont on va parler un peu trop rapidement à mon goût, mais on va quand même réussir à caser ces deux jeux. Le suivant, c'est le nouveau titre d'Amanita Diza. D'Aminata.
Tu vois que là-dessus, Amanita.
Amanita Design et accompagné de DVA pour la bande son. Et ça, c'est aussi important. Donc, on les avait reconnus pour plein de trucs, mais notamment le dernier jeu, Botanicula. Et là, ils reviennent avec Chuchel. Chuchel. C'est formidable. J'avais déjà complètement craqué sur Botanicula et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce choix de design assez unique du studio accompagné de cette bande-son absolument folle de DVA déjà à l'époque de Botanicula. Et voilà. Et là, on retrouve donc Chuchel qui est une petite monstre, une sorte de petite boule de poils avec
un adorable petit monstre
qui aime beaucoup les cerises et donc il va devoir il aime bien les cerises sauf qu'on lui vole sa cerise, il va devoir retrouver sa cerise, il va passer le jeu à courir après cette cerise et ça va lui apporter plein d'aventures, enfin des aventures non, des sketchs, des petites séquences à chaque fois. En fait Chuchel est un enchaînement de petites séquences ludiques ou interactive, pas souvent beaucoup, mais un tout petit peu. Enfin, voilà, il y a une sorte de fraîcheur chez Chuchel, Corentin.
Vous voyez Scrat dans L'Âge de glace ou pas ?
Oui, bien sûr.
Bah voilà.
Oui, voilà, c'est ça.
Scrat, il court après sa noisette.
C'est un sketch. Voilà, dans L'Âge de glace, c'est des sketchs, c'est des virgules qu'il y a dans le. Et là, c'est une suite de virgules, en fait.
Ouais, exactement. Donc voilà, Chuchel est un point and click par Amanita Design, qu'on connaît, donc tu l'as dit, par Botanicula. C'était en 2012, je crois bien. Et puis Machinarium, 2009. Samorost, avant ça. Et même le 3, là, qui est sorti à si longtemps que ça. Donc c'est un studio qu'on connaît bien de par son style graphique toujours unique et qui est très inspiré à mon sens des films d'animation et par des bandes son comment dire. Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de cœur qui est mis dans ce truc. Tu sens que c'est fait avec des petits riens, des bruits de bouche, des
bandes son souriantes.
Ouais.
Enfin, je sais pas, t'es heureux quand t'en sens ça. Ouais. Enfin, y a un côté.
Et en fait, moi, ce que j'apprécie chez Amanita Design, c'est toute cette idée de comment on doit faire une œuvre interactive et ludique, en fait. Donc, c'est plus finalement une démarche artistique de film d'animation, plutôt que vraiment comme un studio de jeux vidéo va réfléchir à un jeu. Alors, le studio, en fait, est très très complet, c'est-à-dire que c'est à la fois des développeurs, des game designers, mais aussi des musiciens, des bruitistes, des animateurs. Et donc, tout ce truc-là, tout cette espèce d'ensemble va former des jeux assez cohérents de bout en bout, quoi. Du coup, quand on a joué à Botanicula, on est super heureux, finalement, de voir cette espèce de texture très végétale dans un monde très végétal. Dans Machinarium, c'est un monde mécanique et froid. On a un design très mécanique et froid avec une... voilà. Et là, donc, dans Chuchel, c'est un peu la même chose. Donc, on est face à ces sketchs, comme tu le dis, avec un design, on va dire, fait, voilà, c'est comme si on avait collé des vrais poils sur une plaque, pour faire le monstre, hein, une boule de poils sur une plaque d'animation, et qu'on avait limite animé à la main chaque élément de ce jeu-là. Ce qui donne un ressenti très organique et très vrai, en fait. On a vraiment l'impression de d'interagir avec des vraies petites boules de poils et machin. Donc, ça, c'est pour l'aspect direction artistique. Parlons un petit peu aussi de l'aspect, on va dire, sketch. Donc comme tu l'as dit, l'histoire va pas très loin, mais finalement est très suffisante. Notre ami Chuchel, j'imagine que c'est lui, hein, c'est son nom, court après sa cerise et donc fait face à différentes situations pour la récupérer. La cerise est coincée dans un monstre qui semble être une espèce de piscine intérieure avec un couvercle qu'il faut soulever. Bon, bah, on va devoir réfléchir, on va devoir cliquer un peu partout. Il n'y a pas de logique vraiment, hein, c'est des énigmes un petit peu à la presque Monkey Island, hein, puisque pour donner un exemple...
C'est très LucasArts comme voilà. Énigme point and click.
C'est-à-dire que ce que vous avez...
Ça va être des combinaisons. combinaison improbable. Enfin, voilà,
vous allez avoir des attentes quand vous allez cliquer sur un truc, ça va pas du tout faire ce que vous attendez. Vous allez cliquer sur un panneau, mais en vrai, le panneau, il va faire un truc complètement inattendu. Vous allez cliquer sur un personnage, le personnage va être méchant, il va vous envoyer balader. Voilà. Le jeu est, malgré cette logique-là, cette logique bizarre qui pourrait en frustrer quelques-uns, le jeu en fait encourage l'expérimentation pour, si on se loupe, on a une petite animation sympa, on a une petite récompense, on a quelque chose, et surtout, le jeu vous débloque à un moment donné, vous met un panneau point d'interrogation, vous cliquez dessus, et là, le personnage de chef vous fait « Ah !» et puis vous montre un schéma de comment il faut faire pour se débloquer. Ce qui fait que c'est formidable pour les gamins, parce que les gamins, ils vont toucher à tout, ils vont être heureux, ils vont être aux anges dès qu'ils vont cliquer, parce qu'il y aura une petite animation. Moi, j'apprécie ce genre d'humour, je rigolais comme un gamin, pareil, en regardant ces animations débiles. Ça nous prend au dépourvu, il y a un petit côté Tex Avery dans l'aspect un petit peu... c'est vraiment cartoonesque.
Voilà, et dans les sketchs, c'est une suite ultra référencée aussi de plein de jeux. On retrouve c'est Flappy ça. Bird, Angry Birds, Pac-Man, Tetris, Space Invaders et plein d'autres. Voilà, il y a des petits sketchs comme ça qui sont...
C'est une réflexion à double lecture. Ce qui fait les bons dessins animés, c'est qu'en général, il y a une double lecture. Pour les gamins, quand ils voient juste le dessin animé avec la trame principale, et pour les parents, quand il y a un deuxième niveau de lecture, Chuchel le fait très bien. Allez-y.
Allez-y, c'est top, c'est génial, c'est magnifique. Bon, ça dure pas très très longtemps, mais c'est formidable.
Sur quoi ?
C'est sur PC Mac.
PC Mac. Et on termine trop rapidement. Je suis désolé, Patrick, tu vas être très frustré. Ouais, mais bon, après tu vas en dire beaucoup de bien par la petite perle de sur PlayStation VR, l'histoire d'une souris qui s'appelle Moss. La grande question du PlayStation VR a toujours été, est toujours et sera pour encore longtemps. Mais qu'est-ce que je fais avec ?
Bah, tu joues.
Mais voilà, mais qu'est-ce que je, mais quel jeu ? Quand machin
je,
et peut-être une réponse arrive avec donc, ce jeu moi, parce qu'on manque d'expérience finalement d'expérience. Qui rassemblent, qui sont moins clivantes, qui ne demandent pas d'aller tuer des monstres, des aliens,
en vue subjective, comme subjective. Beaucoup de jeux, c'est vrai que c'est un peu la tendance.
C'est ce qui manquait. On se souvient d'Allumette, ce court-métrage qui était disponible gratuitement avec le PlayStation VR. On était en attente d'avoir des expériences un peu de ce genre-là. Et
Moss, c'est la super bonne surprise, moi que j'ai pas vraiment vu venir. C'est vrai qu'on l'avait vu, tu disais, je crois, pendant une présentation PlayStation. Bon, ouais, un jeu de plateforme avec une souris en PSVR, pourquoi pas, ça va être un simple jeu de plateforme avec le casque. Et en fait, non, c'est vraiment, c'est un jeu magnifique. Alors là, on voit des images sur un écran en plat, ça donne pas du tout la notion de ce qu'on a avec le casque sur les yeux, où vraiment on est plongé dans cet univers, qui est magnifique, vraiment. Enfin, je trouve qu'en général, sur le PSVR, on est obligé de faire un peu abstraction des problèmes de graphisme. Mmh. Là, je trouve qu'il y a une vraie... comment dire, ambiance visuelle qui je pense a été pensée pour justement pas prendre à défaut le casque. C'est cohérent, c'est magnifique, c'est un conte en fait, ce Moss. On suit Quill, une petite souris blanche.
Ça s'appelle pas Moss, je me suis gouré. Pardon.
Qui part sur toute une aventure. Je veux passer les détails, mais donc il y a un scénario avec une narration, on nous explique, il y a une voix off très bien fichue d'ailleurs en VF qui nous explique tout le pèlerinage de cette petite souris. Et en fait, le principe de Moss, donc c'est un jeu de plateforme où nous, on est une espèce d'observateur au-dessus de l'action. Elle nous voit, cette souris. Elle ne nous parle pas, mais elle nous voit. En fait, on est visible dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a une présence physique, on est une sorte de fantôme qui apparaît. C'est d'ailleurs saisissant quand on est dans le jeu, on se voit dans une flaque d'eau, on voit notre présence. Donc il y a un rapport très particulier qui se crée d'office avec cette souris qui est devant nous et qu'on va faire interagir. Et là, le principe de jeu, il est assez marrant, parce qu'en fait, c'est un jeu de coop en solo. C'est-à-dire qu'on joue tout seul, mais on interagit avec cette souris que l'on dirige aussi. C'est ça, pour moi, la vraie astuce, c'est que on a deux actions dans ce jeu. C'est donc, au DualShock 4, on dirige de façon classique cette souris, comme dans un jeu de plateforme, on la fait sauter, etc. Hein. Et en tant qu'entité au-dessus d'elle, on va pouvoir interagir avec des objets, des éléments du décor. Et c'est là que des mécaniques de plateforme, mais aussi de petites énigmes contextuelles liées à l'environnement qu'on va devoir bouger, nous, en tant que puissance un petit peu au-dessus d'elle, va faire qu'on va interagir, on va la déplacer. En même temps, il va falloir bouger des éléments de décor, etc. ça marche super bien, vraiment. Je trouve que ça, moi, ça m'a rappelé Zack and Wiki. Je sais pas si vous avez. J'y pensais. Je me disais, mais ils
le
ont
seul
refait.
Jeu qui s'est servi des Wiimotes pour
et
autre chose que voilà, qui est...
avec des énigmes. Ouais. Voilà, il y a quelque chose de ce jeu-là dedans. Il y a du Prince of Persia aussi. Il y a du. C'est magnifique. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que pour moi, c'est une exploitation de la VR qui n'est pas dans l'esbrouf avec de la FPS, du FPS dans tous les sens.
C'est une des premières vraies expérimentations ludiques qui prend en compte les contraintes de la VR.
Les vraies contraintes.
Il y a eu le Batman VR qui finalement avait pris.
Mais là, il y a des moments, vraiment des moments magiques où en fait, c'est une succession de tableaux. C'est-à-dire qu'on peut pas être malade quasiment que ce jeu parce qu'on n'a pas de déplacement en vue subjective. Ouais. C'est une succession de tableaux. C'est-à-dire qu'on dirige la souris, hop, on passe des énigmes en bougeant soi-même avec le DualShock. Ça commence par le bouger. Un livre au début, donc on nous apprend tout de suite à choper avec les gâchettes quelque chose. Après, dans le jeu, on va débloquer des énigmes de plus en plus difficiles. C'est une succession de tableaux, donc on ne peut pas vraiment être malade, on n'a pas de mouvement comme ça. Et puis, il y a des moments de mise en scène où on se retrouve un peu en arrière comme ça. On a des décors. Moi, j'avais vraiment la sensation d'être devant des figurines. Moi, j'aime bien les figurines sur mon bureau, j'ai toujours des petites figurines. Là, on a l'impression d'avoir une figurine devant soi qui bouge selon ce qu'on va lui demander de faire, les interactions qu'on va faire avec elle. Puis, le personnage est craquant. On peut s'approcher, elle réagit parfois à nos déplacements. À un moment, elle me disait, mais fais ça, tire avec ça. Parce qu'on a des ennemis aussi. Le jeu, il y a un petit crescendo au niveau de difficulté. Il ne dure pas très longtemps, mais il y a des ennemis qui vont apparaître. Donc, on va faire les exploiter, les immobiliser, les utiliser pour débloquer des passages, etc. Et c'est vraiment fabuleux, je trouve, dans la façon dont nous, en tant que quantité au-dessus de cette action, on est là, finalement. D'accord. Et on a vraiment l'impression d'être devant un décor physique. Au point où on se retrouve, moi je suis vraiment surpris parfois à me déplacer comme ça, ou à me lever même carrément, je joue assis, et à me lever pour essayer de voir derrière un morceau de décor, et de voir, il y a des choses cachées, il faut vraiment se déplacer. Mmh. On a un rapport au décor vraiment unique, et ça c'est vraiment ce que peut apporter la VR dans un ressenti de 3D et de dimension. Il y a un effet wow que j'ai encore avec la VR aujourd'hui, vraiment, quand on lance ce jeu, il y a un vrai effet de surprise, et c'est hyper attachant, vraiment, il est... super beau.
Est-ce que c'est Sony qui le développe ou c'est un autre studio?
C'est Polyarc. D'accord. Je crois que c'est leur premier jeu, si je dis pas de bêtises. Mais c'est
belle performance, en tout cas. Disponible sur PlayStation.
Sur PSVR, et voilà, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de bonnes idées. Il faut d'autres jeux comme ça, vraiment.
Je pense que tu as réussi à convaincre.
Moi, ça me fait rêver un Prince of Persia comme ça en 3D où on pourrait. Enfin, ça ouvre plein de portes.
Mais bien sûr.
Vraiment.
Désolé. Mais on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Eh bien, ça y est. Je suis de nouveau heureux puisque. Terrace House a repris, oui, Terrace House. Terrace House, c'est une télé-réalité japonaise qui est diffusée sur Netflix, qui en fait avait été arrêtée au Japon, puis Netflix l'a repris, enfin comme beaucoup de choses, Netflix reprend. Donc là, c'est la troisième saison de Netflix qui avait une saison à Tokyo, une saison à Haïti, je sais plus, bref, dans les îles. Et là, donc c'est de nouveau une saison au Japon, plutôt près des montagnes. Merci. Ouais. Je vais y arriver, je confonds tous les
pays. Je ne regarde absolument pas. Mais il y a suffisamment de monde sur Twitter qui regarde cette chose-là pour que je sois au courant.
Donc Terrace House, c'est une télé-réalité de non-enfermement, c'est-à-dire que c'est pas un loft, quoi. On les balance pas dans un loft et ils sont enfermés, c'est-à-dire que les mecs continuent de vivre leur vie, ils sortent, ils vont travailler, on les filme même sur leur lieu de travail, on regarde ce qu'ils font et tout ça. Et puis ils interagissent comme des colocataires finalement, il y a des amourettes qui se mettent en place ou non, les gens partent, rentrent. C'est plutôt intéressant parce que en fait la psychologie des Japonais est très différente de celle des Occidentaux, des Européens, des Américains. Et du coup, on est sur une télé-réalité extrêmement calme où, genre, il y a des petits malaises qui se mettent en place. Et comment on doit en parler? Ah, nous allons convoquer un conseil de la colocation pour en discuter. Et du coup, on est là, on les regarde. C'est un peu comme regarder des animaux en laboratoire et faire comment ils vont réagir à telle situation. C'est quand même super intéressant. Et ça fait plaisir de retourner au Japon parce que c'est vrai qu'il y avait eu cette saison à Hawaï. Mais comme ils étaient tous un peu, ils étaient tous métis, mi-américains, mi-japonais, ils étaient beaucoup plus détendus. Donc finalement, c'était comme regarder une télé-réalité normale. Là, on retourne au Japon. Moi, j'aime bien. Et alors, ce qui est super dans Terrace House, c'est qu'on n'est pas laissé le regarder. Il y a toute une équipe de commentateurs qui regardent avec nous, en fait. Et c'est entrecoupé et ils commentent. Et ils sont trop marrants. Et en fait, ils ont vraiment des remarques trop sympas et c'est cool. Donc, ça, c'est sur Netflix. Il doit y avoir une première partie qui a dû être mise en ligne. J'ai pas trop regardé. Et en général, ça arrive en trois morceaux. Donc là, le premier gros morceau arrive. Le reste arrivera par la suite.
Patrick, fallait que tu nous parles quand même. J'ai lancé une perche la semaine dernière, fallait que t'en parles.
Je joue pas aux jeux vidéo, j'écris sur le jeu vidéo. Quelle idée. Sur le jeu vidéo rétro. Et en ce moment, je travaille avec l'équipe de JV Le Mag sur Génération Jeux vidéo, années 90. Donc, il va être la suite spirituelle de, donc, du volume années 80 qui était paru l'année dernière.
On avait fait une émission, hein, une formidable émission
avec Sylvain. Était, avec voilà, Sylvain début oui. discuté. Donc là, voilà, on travaille donc, sur la version 90. Il y aura a priori deux volumes. Donc, on a découpé en deux parties, 90-94. Et le suivi d'après sera 95-99 parce que c'est une décennie tellement riche avec des évolutions monstrueuses. C'est vrai qu'on parlait des années 80 en 10 ans et s'est passé énormément de choses. Les années 90, ça part vraiment, ça part très très fort. Il y a des révolutions technologiques très très rapidement, aussi bien dans le PC, dans les consoles, etc. Donc voilà, le projet donc sortira, donc le livre sortira vers la rentrée septembre-octobre 2018. Et puis on a fait appel à un Kickstarter qui est
qui a donc explosé comme d'habitude dans les premières heures.
C'est,
hein.
c'est cool parce que ça a bien marché, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que voilà, il y a une attente pour ce genre de bouquin, donc ça fait plaisir de bosser dessus. Et d'ailleurs, il y a encore quelques jours le Kickstarter est encore en cours jusqu'au 22 mars, si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez encore le réserver, c'est encore possible. Il y a encore quelques jours pour passer le prochain niveau, je crois que le prochain palier, ce serait un making-of du bouquin.
Wow. Ah non, j'ai trop envie, j'ai trop envie.
On pourrait voir bon, on est en train de à la rédaction et tout ça.
On est juste en train d'exploser le timing. Je vais juste faire un rapide. Moi, j'ai vu enfin Fargo saison 3, qui est une des meilleures saisons de série que j'ai rarement vue. Voilà, je veux même pas argumenter. C'est une saison absolument incroyable. Pour ceux qui se sont arrêtés à la 2, continuez jusqu'à la 3, la saison 3 de Fargo. Merci à tous les deux. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération.fr et sur les internet. Ciao.